22 janvier à Montesquieu-Volvestre au collège à 20h. Pup en vol nous propose une conférence sur la biodiversité en danger et comment la défendre. C'est Ananda Guillet, directeur de l'association Cocopelli. Bonjour messieurs, puisque vous êtes accompagné de Bernard Ferrand. Bonjour.
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 Présentez-nous cette association Cocopelli.
Alors l'association Cocopelli, en fait, qui a été créée le 28 avril 99 exactement, donc il y a plus de 15 ans, lutte en fait pour la préservation de la biodiversité semencière, donc de la biodiversité alimentaire en règle générale. Donc en fait, on maintient une gamme de plus de 2200 variétés libres et reproductibles, donc des anciennes variétés mais aussi des variétés modernes, mais qui sont toujours libres et reproductibles, donc en fait qui appartiennent au domaine public. C'est-à-dire que vous allez pouvoir refaire la semence d'année en année de la semence que propose Cocopelli. Donc ça, c'est vraiment le combat de base de Cocopelli. Après, on intervient un peu partout sur toute la planète en envoyant des semences gratuitement dans tous les pays pauvres, en fait, donc pour les communautés rurales qui sont dans le besoin. Donc on a une association, on a 8600 adhérents à peu près, majoritairement en France, mais aussi à l'étranger.
Et alors pourquoi cette démarche de garder les graines et de les semer ou de les envoyer à ceux qui n'en ont pas?
Comment dire, c'est vraiment notre optique, c'est vraiment l'autonomie en règle générale, et avant tout ça passe par l'autonomie alimentaire. Donc si on veut être autonome au niveau alimentaire, ça passe forcément par l'autoproduction de semences.
Est-ce qu'on peut faire une parenthèse sur les plus grandes semences, les semences de plus grande surface comme le blé, le maïs, les soja, les colzas et tournesol et autres, puisque la loi normalement nous empêche de garder ces graines?
Alors la législation au niveau de la semence en Europe, c'est un sujet qui est extrêmement complexe. On a tendance à amalgamer en fait un peu tous les sujets, à mélanger les OGM, les hybrides F1, les variétés sous obtention, etc. Donc c'est très compliqué. Évidemment sur les céréales ou on va dire sur les semences de base, c'est là où il y a le plus de conflits, bien sûr.
Oui.
Mais oui, on peut faire une parenthèse sur le blé parce que Cocopelli propose, j'ai pas le nombre de variétés exactement, mais dans la gamme collection, on a effectivement énormément d'anciennes variétés de céréales qui sont d'ailleurs, pour refaire une petite parenthèse, beaucoup plus pauvres en gluten que les blés modernes, parce qu'en ce moment on entend un peu partout parler d'allergie au gluten, etc., d'intolérance. Donc ça, c'était pour faire une petite parenthèse. Donc effectivement, on a énormément de maïs, énormément de tournesol, de blé, etc. chez Cocopelli.
D'accord. Votre symbole, vous pouvez nous l'expliquer?
C'est une
abeille, c'est...
Ah non, c'est pas du tout une abeille. En fait, Cocopelli, c'est un personnage, c'est un petit bonhomme qui vient de... Donc d'Amérique latine ou d'Amérique du Nord, enfin du continent américain, on s'accorde pas vraiment d'où exactement. En fait, c'est un personnage qui est bossu, et dans sa bosse, en fait, c'est une fausse bosse, c'est évidemment un sac de graines. Ce personnage a aussi des antennes, donc avec ses antennes sur sa tête, il relie le champ des étoiles à la Terre, et il joue de la flûte en permanence, et il fertilise en fait les graines avec le son de sa flûte.
Très beau. Ce 22 janvier, c'est le sujet des semences, et vous intervenez donc sur ce sujet-là avec... Pup en vol, petite université populaire en Volvestre. C'est à Montesquieu. La biodiversité est en danger, alors comment la défendre? C'est le titre, mais c'est aussi ma question.
Oui, alors comment défendre la biodiversité? En la défendant, tout simplement. Comment? C'est un très vaste sujet, parce qu'il y a évidemment énormément de manières, mais pour nous... Enfin, le premier, c'est évidemment notre combat, c'est refaire sa semence. On va dire repartager les semences, partager le savoir aussi, partager le savoir d'autonomie. Enfin, c'est assez dur à expliquer pour moi parce que ça me paraît tellement évident, en fait, les actions qu'on doit mener tous les jours pour essayer de préserver la biodiversité. Après, c'est aussi et surtout dans l'éducation tant des jeunes que des adultes, hein, d'ailleurs, évidemment, parce que on voit sur les marchés en fait que les maraîchers ont du mal à produire des anciennes variétés qui vont être pour les tomates, parce que c'est l'exemple le plus classique, un peu moins rondes, un peu moins lisses, un peu moins brillantes, mais qui vont être bien meilleur d'ailleurs, et puis bien meilleur au niveau de la santé, au niveau du goût. Mais les gens sont pas éduqués en fait à ces variétés, donc ils vont aller ils vont aller toujours vers les variétés modernes, oui, qu'on peut jeter contre un mur et qui rebondissent, quoi. Donc en fait, il y a un énorme travail d'éducation. Ici, on est dans un pays assez rural, donc le, oui, travail est quand même, il y a quand même un gros travail, mais c'est moindre par rapport aux grandes villes où là c'est carrément la catastrophe. Mmh. Où là vraiment les gens ne sont au courant d'absolument rien. Le mot biodiversité, nous on l'a écrit sur le camion, quand on est en ville pour nos foires, nos expositions, les gens nous demandent ce que ça veut dire, etc. Enfin, on croit rêver, mais oui, c'est effectivement la situation des...
Oh oui. Vous dites que c'est une lutte de tous les jours, de tous les instants. C'est quoi plus précisément? Est-ce que vous luttez par exemple contre ce qui est la grosse distribution?
Ben oui, nous on lutte tous les jours contre la grande distribution en incitant en fait les gens, on va dire, à boycotter ce système-là et à aller plus vers l'autonomie familiale, quoi. Mm-hmm. Donc nous on essaye vraiment de créer, on va dire, des micro-banques de semences un peu partout et de faire en sorte de revenir un peu vers ce mode, on va dire, ce mode de paysannerie qu'on avait avant les guerres, avant que toute cette machinerie agricole arrive, parce qu'il faut pas oublier que les pesticides, la base des pesticides, c'est les gaz moutarde recyclés, donc c'est les gaz de combat. La base des tracteurs, en fait, c'est toute la mécanique recyclée des tanks. Donc en fait, on vit depuis ces guerres-là une agriculture de mort, une agriculture de guerre. En fait, on fait la guerre contre les insectes, on fait la guerre contre les mauvaises herbes, etc. Donc nous, voilà, on essaye de réorienter un peu la paysannerie vers ce mode d'autonomie, parce que, enfin, il n'y a même pas un siècle de ça, refaire sa semence, on n'en parlait même pas, c'était une banalité de la vie de tous les jours. Mm-hmm. Ça tombe sous le sens. Parce qu'avant que les industriels de l'agroalimentaire mettent leur gant de fer, en fait, sur toutes les semences, sur les semences mondiales, les gens refaisaient leurs semences, bien, oui, évidemment. L'agriculture a plus de 10 000 ans.
Oui. À qui profite donc le crime maintenant ?
Toujours aux mêmes, hein. Toujours à nous, on les appelle les psychopathes prédateurs, hein, tout simplement, la mafia, hein. La mafia qui contrôle ce monde, et cette mafia en fait est sur tous les fronts, tant au niveau de la pharmaceutique, de l'alimentation, de l'armement, etc. C'est tous les mêmes, si on fait les arbres, on retrouve tout le temps les mêmes. Plus particulièrement au niveau de la semence, dans le monde, c'est 75% de la semence potagère qui est contrôlée par 5 multinationales. Mmh. Donc en fait, voilà, le monopole est juste gigantesque.
Oui, en effet.
C'est à eux que ça profite. Mmh. Mais il faut se rendre compte que le crime, comme vous l'appelez, le crime est très grave, parce que quand on prend l'Inde, par exemple, après la révolution verte qui est passée de plus de 10 tonnes de riz à l'hectare à 500 kilos à l'hectare, avec les variétés modernes apportées par Monsanto, par Bayer, Syngenta, etc. C'est un réel crime, en fait, parce qu'on affame tous les pays pauvres sous prétexte d'aller les nourrir avec des nouvelles technologies, des variétés plus modernes, résistantes à la sécheresse, résistantes à l'humidité, résistantes au soleil, résistantes à telle maladie. Tout ça, c'est évidemment du mensonge éhonté, et on affame les peuples en permanence. Nous, on a voyagé au Guatemala où il faut marcher 4 heures pour aller voir des petites communautés et ils sont envahis d'OGM. On pourrait penser que c'est tellement loin que les OGM les ont pas atteints. Évidemment, les OGM les ont atteints parce que on a des commerciaux qui sont allés avant nous et qui ont sillonné toute l'Amérique latine pour leur amener des variétés OGM ou hybrides. Mmh. Donc ils affament les peuples, en fait. Donc le crime est grave. Et le crime profite évidemment aux multinationales.
C'est aussi une alerte pour toutes les populations, finalement, tout ça.
Ah, complètement, hein. Mmh. Complètement, parce que donc nous en Europe on est plus informés, on va dire qu'il y a quand même des réseaux de défense de l'environnement, de la biodiversité qui sont assez en place, mmh, qui informent. Donc on a internet, on a, on va dire, une certaine civilité qui nous permet d'accéder, oui, à une certaine connaissance ou une pseudo connaissance. Mais il faut se rendre compte que dans les pays les plus pauvres, la connaissance, mmh, la connaissance telle que nous on la connaît n'existe pas. Donc en fait on les a vraiment décimés à vitesse grand V.
Oui.
Et ça passe par l'alimentation. C'est vraiment au Mexique, on a des cas de gens qui meurent en mangeant des chiapas au maïs OGM qui sécrète une molécule toxique pour lutter contre la pyrale ou contre des ravageurs. Mm-hmm. Ça, c'est des cas qui sont choquants. Et en fait, des cas comme ça, il y en a partout sur la planète. Encore en Amérique latine, il faut voir les enfants de 3 à 6 ans qui sont avec des petits drapeaux rouges et qui agitent les drapeaux rouges sous les avions qui pulvérisent des insecticides ou des herbicides. Et les gamins se déplacent à chaque fois de 10 mètres pour indiquer en fait à l'avion où il doit viser. Et les gamins, généralement, vivent jusqu'à 6-7 ans et après, ils meurent de leucémie, de cancer, etc. Donc ça, c'est la réalité que nous, on voit pas parce que c'est sûrement pas la télé qui va nous montrer cette réalité. Mais c'est cette réalité-là sur les champs d'ananas, sur les champs de bananiers, etc. Et ces ananas, ces bananes, c'est nous qui les mangeons dans notre grande distribution européenne. Mmh. Donc il faut savoir que quand on mange des fruits et légumes exotiques, c'est des enfants qui meurent à l'autre bout de la planète pour ça.
Quelle différence on peut expliquer à nos auditeurs qu'il y a entre les productions bio, conventionnées, raisonnées et naturelles ?
Ben là, c'est un très vaste sujet en fait. C'est un très très vaste sujet parce que l'agriculture biologique, telle qu'on la connaît aujourd'hui, en fait, a dramatiquement évolué dans le mauvais sens, on va dire. Et c'est en partie la grande distribution qui s'est évidemment accaparée l'agriculture biologique. Donc nous, on lutte vraiment pour une agriculture à toute petite échelle, biologique évidemment, mais à toute petite échelle, parce que l'agriculture biologique à très grande échelle, c'est pas une solution. L'agriculture raisonnée, c'est tout simplement une farce immonde. Disons que tout ça, c'est des termes, enfin c'est des termes qui sont là pour tromper le consommateur, tout simplement. L'agriculture raisonnée, moi j'ai discuté avec le président de l'UIPP, qui est, je sais pas si c'est toujours lui, le président, c'était Jean-Charles Bocquet à l'époque, qui nous montrait la courbe des pesticides en tonnage qui faisait que diminuer avec l'agriculture raisonnée depuis 99. Alors effectivement, le tonnage diminue. Par contre, la concentration des molécules est des fois 400 plus élevée. Donc en fait, la courbe ne fait que grimper sous la bannière verte de l'agriculture raisonnée. Tout ça, c'est une farce immonde. Comme l'agriculture non-labour, ce qu'ils appellent le non-labour, on aurait tendance à penser que c'est des techniques d'agroécologie, etc. Pas du tout. Il laboure pas effectivement, mais il gaze tout à coup de produits chimiques ultra toxiques pour pouvoir ameublir le sol, pour pouvoir éradiquer les mauvaises herbes, etc. Donc tout ça, c'est des termes qui sont une esbroufe pas possible. Après, sur l'agriculture biologique, le problème, c'est que l'agriculture biologique, bien souvent, vient d'Europe de l'Est, vient de Chine, vient d'Amérique latine, encore une fois. Et malheureusement, l'agriculture biologique d'aujourd'hui, c'est assez dramatique.
Et la naturelle ?
Alors là, l'agriculture naturelle, je sais pas du tout ce que ça veut dire, parce que c'est ni un label, ni... Enfin, l'agriculture naturelle, si c'est un petit maraîcher du marché du coin qui nous dit qu'il fait de l'agriculture naturelle, c'est un contrat de confiance qu'on passe avec lui. On ne sait pas si...
D'accord.
Voilà.
Est-ce qu'on sera exposé dans le futur à des maladies qui vont devenir plus résistantes ?
Bah, moi, je pourrais parler qu'au niveau de l'agriculture. Au niveau de l'agriculture, évidemment, les maladies et les ravageurs, on va dire, des grandes cultures sont de plus en plus résistants. Et d'ailleurs, on a l'exemple aux États-Unis depuis quasiment 6 ans. Mais là, c'est pas des maladies, mais c'est quand même assez drôle parce qu'en fait, le maïs Roundup Ready, donc qui est résistant au glyphosate, donc qui est la matière active du Roundup, donc ils peuvent pulvériser par avion allègrement sans que le maïs meure, l'amarante sauvage est devenue strictement résistante au Roundup. Donc elle a développé des résistances incontestables, ça ne lui fait ni chaud ni froid. Donc en fait, on voit bien que, pour répondre à la question simplement, il suffit de regarder les deux courbes de l'augmentation des ravageurs et des maladies dans les grandes cultures, qui est évidemment strictement parallèle à la courbe d'augmentation de l'utilisation des produits chimiques, des azotes de synthèse, de tous les engrais de synthèse qu'on met dans les champs. Donc plus on tue le sol, plus on tue notre biodiversité, plus on se tue nous-mêmes évidemment. Enfin, tout ça est logique, tout va dans le même sens.
D'accord.
C'est pour ça que pour nous, c'est une farce immonde de dire qu'on va résolutionner le problème de la faim dans le monde avec des nouvelles technologies au niveau agricole. On voit bien que c'est un fiasco total, un fiasco, vraiment.
Si on ne garde plus nos semences et qu'on soit obligé d'en passer par ces gros distributeurs semenciers, est-ce qu'on peut croire que le pain, un jour ou l'autre, ne sera plus du pain ? Ou est-ce que le pain restera-t-il du pain ?
Bah, selon moi, en fait, la baguette du boulanger du coin n'est déjà plus du pain, en fait. Parce que, selon moi, un pain, comme on l'entend, un vrai pain, il peut rester quasiment plusieurs jours, même il peut rester plusieurs jours sans dessécher, il y a vraiment à manger dedans. Une baguette de pain blanc, des fois au bout de 4-5 heures, c'est déjà du vide, en fait. C'est à la base du vide, mais c'est du vide qui est dur, qui est plus mou. Enfin, bon, le pain blanc n'est plus du pain, c'est juste du gluten avec de l'air, du vide, quoi. Et c'est strictement pas nourrissant, il n'y a aucune fibre, aucun nutriment, il n'y a rien dans du pain blanc. Donc le pain, tel qu'on le connaît aujourd'hui, n'est déjà plus du pain. Mmh. À moins de trouver évidemment notre boulanger préféré qui travaille au feu de bois avec un petit épeautre ou des anciennes variétés, où là vous allez manger quelque chose de consistant et de nourrissant. Mais sinon, on a déjà perdu depuis bien longtemps le vrai goût du pain et on a perdu depuis bien longtemps les vraies céréales au niveau de la grande culture. On n'utilise plus du tout de vraies céréales sur les grandes cultures.
Bernard Ferrand, vous voulez intervenir ?
Un petit peu sur un point, c'est sur cette biodiversité, parce que là on parle beaucoup de semences, et ça ne concerne pas que l'agriculture, ça ne concerne pas que la semence, ça concerne tout le vivant. Il y a une appropriation du vivant par de grandes entreprises, des multinationales, qui cherchent qu'une chose, c'est à breveter et faire telle et telle chose leur propriété et exclure tout ce qui existe autour. Comme c'est le cas dans les semences où ils contrôlent, ils ont quelques variétés brevetées, etc., qui est leur propriété, et ils font tout en sorte pour exclure tout le reste et donc assurer leur chiffre d'affaires et dans tout le vivant. Et on sait scientifiquement que la Terre est un mélange de millions d'espèces, d'insectes, les hommes, les plantes, etc. Et cet équilibre-là, c'est là que nous vivons. C'est cette biodiversité qui fait notre richesse et notre survie. Plus on l'appauvrit, plus on met l'homme en danger. Et on est en train de faire ça.
Mmh. Oui, au niveau des insectes, on perd à peu près 150 races, on va dire, d'insectes tous les jours. Enfin, je me demande si c'est pas même au niveau de toute la faune, si je ne sais plus les chiffres exacts, c'est à vérifier, mais c'est à peu près 150 races qu'on perd tous les jours, 150 espèces. Au niveau de la flore, c'est encore bien plus dramatique que ça, évidemment. On va vers, en fait, la biodiversité, on l'a transformée en espèce d'entonnoir et on va toujours vers l'uniformisation, en fait. Hein, c'est le but des multinationales, c'est l'uniformisation pour le portefeuille, t'as raison, mais aussi pour le pouvoir, et surtout pour le pouvoir, parce que qui contrôle la semence contrôle le monde, qui contrôle la biodiversité contrôle évidemment tous les biotopes, tout quoi, tout simplement.
D'accord. Donc c'est pour ce 22 décembre, le rendez-vous est à 20h, c'est au collège de Montesquieu-Volvestre, la biodiversité en danger et comment la défendre, une conférence d'Ananda Guillet, qui est directeur d'ailleurs de l'association Cocopelli.
Oui, ce qui est très important aussi, c'est qu'on a la chance d'avoir Cocopelli à cette conférence. Mm-hmm. C'est concrètement une association qui a une activité économique de conservatoire des semences, de commercialisation aussi, bien sûr, et c'est concret et qui se heurte frontalement à l'ensemble justement de ces multinationales à travers toutes les procédures juridiques, etc. C'est très important de les avoir là concrètement, qu'ils puissent nous exposer leurs difficultés et leurs volontés.
Mmh, merci. L'échange se prolongera jusqu'à 21h30 puisqu'on pourra apporter son panier de collation avec des bons produits de chez nous et on pourra donc poursuivre cet échange. Merci beaucoup messieurs, à bientôt.
À bientôt, merci.
Merci.